Sur efficacement vos projets en toutes circonstances grâce à une épargne sécurisée Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Chaque jour ou presque dans Priorité Santé, médecine moderne et médecine traditionnelle se côtoient. Cardiologues, gynécologues, pédiatres, oncologues ou endocrinologues se succèdent derrière ce micro pour expliquer, parler prise en charge et traitement. Et chaque jour, vous, les auditeurs, vous témoignez et souvent racontez comment pour tel trouble ou telle douleur, vous êtes allé consulter un tradi praticien et qu'aujourd'hui, vous recherchez parallèlement l'éclairage d'un spécialiste. Car consulter un guérisseur, un acupuncteur, boire une décoction ne signifie pas pour autant que l'on rejette ce que biologie et chimie ont pu apporter en matière de santé. Ce pont entre médecine traditionnelle et moderne, de nombreux patients l'ont franchi depuis longtemps dans le monde pour des raisons culturelles, géographique et bien sûr financière. Et cette tendance se vérifie dans les pays riches où les usagers sont en quête de relationnel et d'écoute, que certaines consultations conventionnelles, parfois trop brèves et impersonnelles, ne permettent pas forcément de retrouver. Cette complémentarité, c'est aussi une tendance que suit depuis des années l'OMS qui préconise l'intégration au système de soins de santé des pratiques de médecine traditionnelle qui ne présentent pas de danger et qui ont fait leurs preuves. Approche complémentaire au cœur de la pratique de nos trois invités en studio aujourd'hui. Avec nous, docteur Agnès Gianotti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste dans le 18e arrondissement de Paris. Vous êtes secrétaire général de l'URACA, unité de réflexion et d'action des communautés africaines. Docteur Gianotti, vous venez de co-signer un ouvrage avec le docteur Moussa Maman Bello, bonjour.
Bonjour.
Médecin, ethnopsychiatre, tradi praticien, fondateur de l'URACA. Votre livre commun s'intitule « Renaître en pays d'Ennemis ». Andy Kouva des possessions au Nord Bénin, publié aux éditions Granvaux. Et puis avec nous aussi, le professeur Olivier Bouchaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service des maladies tropicales à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Et en fin d'émission, nous retrouverons la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète. Le numéro de l'émission, pour témoigner, pour poser vos questions, le numéro c'est le 33 84 22 75 75. Professeur Olivier Bouchaud, comment un chef de service d'un grand hôpital français vient-il à se familiariser avec les médecines traditionnelles ?
Oh, l'histoire est longue. J'essaie de la raccourcir, mais je pense que c'est effectivement important de comprendre l'origine. À l'origine, c'était au début des années 90, j'étais jeune chef de clinique, et à cette époque-là, on était en plein dans l'épidémie du VIH, je parle de ce qui se passe en France, hein, où tous nos patients mouraient. Et notre rôle était d'accompagner nos patients vers leur mort, finalement. Avec les patients, alors je mets plein de guillemets qu'on verra pas à la radio, mais les patients blancs, ça se passait à peu près bien. Avec nos patients africains, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et à cette époque-là, je m'en étais ouvert au docteur Gianotti, donc c'est vous dire qu'on se connaît depuis un certain temps, qui m'avait dit, écoute, je vais te présenter à quelqu'un qui va peut-être pouvoir t'aider. Et donc c'était le docteur Maman Moussa, qui, avec sa formation d'ethnopsychiatrie et puis surtout son pied dans la médecine dite moderne, le terme est pas bon, mais on va le garder comme ça, et puis son pied dans la médecine traditionnelle.
On peut dire conventionnelle aussi.
Oui, on peut dire ça. M'a dit, bah, écoute, on va faire des consultations chez toi. Et c'est comme ça que j'ai appris, petit à petit, parce que ça prend un certain temps, cette complémentarité entre médecine traditionnelle, ou en tout cas vision traditionnelle de la médecine, et puis la médecine moderne allopathique. Et du coup, j'ai construit sur cette base-là ce que j'appelle l'approche transculturelle, qui vise à anticiper les difficultés plutôt qu'à les traiter par des consultations d'ethnomédecine, comme ça existe, et c'est très bien que ça existe.
Vous avez appris par l'observation ?
J'ai appris par l'observation et j'ai appris par une forme d'imbibition en regardant comment fonctionnait le docteur Maman Moussa. Et je vais quand même raconter une petite anecdote sans vouloir prendre trop de temps. La première question qu'il a posée à notre premier patient, c'était « Raconte-moi ton dernier rêve ». Et pour moi, ça a été une espèce de choc, parce que je rentrais de plein pied dans la psychiatrie freudienne, et j'étais loin, loin, loin d'imaginer que la médecine traditionnelle, telle que je pensais qu'il la pratiquait, utilisait ce type d'outils. Et en fait, j'ai appris par la suite que Freud s'était complètement inspiré de ce genre de pratique pour construire ce que tout le monde connaît maintenant, la psychanalyse, etc. Et ce que fait Moussa au pays avec ses tradits praticiens, c'est de la psychanalyse. Une forme de psychanalyse un peu particulière qu'on appelle l'endorcisme.
En travaillant beaucoup sur les songes, on le verra plus tard. Docteur Moussa Mamambello, si on voulait définir cette médecine traditionnelle, comment on la distinguerait de la médecine conventionnelle? On voit cette approche différente, poser une question à laquelle on ne s'attend pas, on sent bien cette différence. C'est quoi? On l'apprend là par l'observation, on l'apprend par la parole, on l'apprend pas à la faculté ni à l'université?
Écoutez, la médecine traditionnelle, c'est également comme la médecine moderne. La seule différence, c'est que la médecine moderne utilise des outils que la médecine traditionnelle n'utilise pas. Vous savez, la médecine moderne est venue quand? Dans les années... Nous, en Afrique, on la connaît dans les années 50. Avant que la médecine moderne n'arrive, on utilisait, nous, nos outils traditionnels pour soigner les malades. On utilise, par exemple, la transe. On utilise aussi les plantes. On utilise également tout ce qui est substance végétale, minérale et animale. Donc, la seule différence avec la médecine moderne, c'est que la technologie au niveau de la médecine moderne est avancée plus que le traditionnel. Je crois que c'est là la différence, c'est pas autre chose.
Vous ne pensez pas qu'il y a aussi la globalité de l'approche qui diffère, docteur Agnès Gianotti? On n'a pas peut-être une prise en charge du médical quand on décrit des symptômes, on fait une énumération, on découpe. Si on dit j'ai mal au ventre, on ne va pas forcément s'intéresser à ce qui se passe dans la tête, on ne va pas forcément s'intéresser à ce qui se passe dans une autre partie du corps. Vous ne pensez pas que dans cette médecine traditionnelle, il y a une approche qui est davantage globale?
Alors, dans la médecine conventionnelle, il y a quand même une approche globale du patient psychologique. On est à l'écoute. On sait bien que si on a mal au ventre, souvent c'est au dos et qu'on a des soucis. Donc, il y a ce côté-là. Mais c'est une approche individuelle. Dans la médecine traditionnelle, d'abord, c'est une approche qui remet l'individu au sein du collectif, de son groupe familial, de son clan, je dirais, mais aussi un équilibre entre l'invisible, le visible, le cosmos. C'est-à-dire, l'individu, on va essayer de lui redonner un équilibre dans tout ça pour qu'il retrouve sa place dans la société. Et il y a surtout une chose, moi je trouve, c'est que la médecine conventionnelle ne donne pas de sens. Elle donne des explications. Elle dit comment, mais elle dit pas pourquoi. Et c'est la grande complémentarité avec les médecines traditionnelles, c'est qu'elles, en général, elles expliquent pourquoi, le comment les intéresse plutôt assez peu, mais ça donne du sens là où nous, on n'en a pas. J'ai un cancer aujourd'hui, mais pourquoi moi, pourquoi aujourd'hui? Cette question-là, en Occident, on y répond peu.
Est-ce que, professeur Olivier Bouchot, ce serait caricatural de dire que d'un côté, on est davantage dans l'interprétation du côté de la médecine traditionnelle, alors que du côté de la médecine conventionnelle, on serait plus dans le diagnostic pur et simple?
Oui, on pourrait dire ça. Après, tout dépend ce qu'on met derrière le terme interprétation et derrière le terme diagnostic. Parce que quand on regarde comment le docteur Moussa Maman et ses tradis praticiens fonctionnent, ils font des diagnostics. Et je me suis aperçu aussi, ça a été un deuxième grand choc, qu'ils ont une sémiologie, c'est-à-dire une étude des signes, et on rejoint le sens de l'observation dont on parlait tout à l'heure, qui est extrêmement fine, et notamment dans les maladies psychiques, dans les troubles mentaux, probablement beaucoup plus fine, alors c'est pas ma spécialité, donc je vais pas trop m'avancer, mais probablement beaucoup plus fine qu'en psychiatrie moderne. Mais ce qui est très important, et c'est ce que disait Agnès Gianotti à l'instant, c'est que la médecine moderne, conventionnelle, oublie complètement un pan de la prise en charge qui est la représentation que chacun, enfin que chaque patient, se fait de sa maladie. Et ça rejoint ce qu'elle disait sur la maladie a toujours un sens. Et la médecine conventionnelle a tendance à penser qu'il n'y a pas de sens, que c'est le hasard. Or, dans la représentation que chacun de nous s'en fait, qu'on habite au fin fond du Bénin ou qu'on habite dans Paris 18e ou ailleurs, on a besoin de donner un sens à sa maladie. C'est le fameux « pourquoi moi, pourquoi maintenant ?» Et c'est pour ça que ces deux médecines sont complètement complémentaires, parce que pour reprendre les termes d'Agnès, la médecine moderne va dire « vous êtes malade parce que », avec le « comment », mais il ne vous dira pas « vous êtes malade, pourquoi ?» Et ce « pourquoi », et a fortiori quand c'est une maladie grave, mais même pour les maladies bénignes, on a absolument besoin de trouver une réponse à ce « pourquoi ».
Madame, messieurs, on se retrouve dans quelques instants, juste après ce témoignage. Témoignage d'Abdoulaye, lui, il n'a pas fait son choix, il continue de naviguer entre médecine traditionnelle et occidentale.
Mon premier réflexe, c'est quand je me sens mal, d'aller voir mon médecin traitant, lui expliquer mon problème, voir s'il peut faire quelque chose. De là, si vraiment il est incapable de trouver une solution, après je peux voir un guérisseur qui peut essayer de me soulager. Je me rappelle en 2005, j'ai eu vraiment mal, voilà, mal au ventre. Impossible de trouver le médecin, il n'arrivait pas à trouver d'où venait cette douleur. C'est de là qu'il m'a expliqué d'aller voir un guérisseur. Voilà, j'en ai parlé avec un de ma famille qui m'ont dit, voilà, on va voir un tel monsieur, telle dame qui va essayer de faire quelque chose. Mais quand je suis arrivé, effectivement, c'est un simple local à son domicile qui reçoit plusieurs personnes dans une chambre. Le guérisseur, donc il a sorti ses coris, il a regardé, voilà, pour voir déjà qu'est-ce que j'ai comme maladie. Voilà. C'est de là qu'il a trouvé, il a dit finalement, je vais vous donner quelque chose pour se laver, et puis on va essayer de voir pour si ça va s'enlever ou pas.
Il vous donne quoi? Une liste de produits à acheter, un peu comme une sorte d'ordonnance?
Non, c'est plutôt plusieurs sortes de médicaments traditionnels. Voilà, le guérisseur qui connaît ces plantes, je me dis, voilà, telle plante, mélangez et vous lavez avec, vous buvez pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois.
Et c'est efficace ou pas?
Bon, je peux dire, celui que j'ai commencé, au bout de mois, j'ai vu les résultats. Et quand je pars voir mon médecin traitant, la dernière fois que j'ai été, en utilisant toujours les feuilles de ce médicament, il m'a dit, mais bravo, j'ai vu que votre tension a bien baissé. Donc c'est de là où je lui ai parlé que le médicament j'utilisais. Et lui-même, il m'a demandé c'est quoi, je lui ai donné les noms des médicaments traditionnels.
Est-ce que c'est compliqué de trouver ici en France les produits traditionnels que le guérisseur vous prescrit, entre guillemets?
Moi, pour mes médicaments, enfin les médicaments traditionnels, c'est quand je pars en vacances au Sénégal. C'est de là que j'en profite pour récupérer pas mal des médicaments traditionnels pour le ramener ici en France.
Pourquoi ressentez-vous encore le besoin d'aller chez le guérisseur alors qu'il y a une médecine accessible en France?
Parce que je me dis, il y a des choses que mon médecin traitant, par exemple, il ne peut pas me soigner pour cette maladie, ce que je ressens moi dans mon corps. Alors que je me dis, peut-être que le guérisseur peut le soulager. Par exemple, j'ai mal au dos, je sais pas, j'ai la flemme quand je me lève le matin, je suis fatigué, je sais pas, donc je peux pas me gaver avec des médicaments occidentaux. Donc ce qui fait que peut-être avec le guérisseur, il peut me donner quelque chose pour me laver, pour essayer d'enlever cette douleur, peut-être c'est possible. Parce qu'on a eu mes parents ou mes arrière-parents que j'entends parler de médicaments qu'ils utilisaient pour essayer de guérir telle chose, voilà. J'utilise plus les traditionnels que les médicaments occidentaux. Voilà, parce que moi, ma crainte, c'est surtout les effets secondaires que ça apporte. Dans mon cas, je préfère utiliser le quinquilibre que d'utiliser le doliprane. C'est plus efficace pour moi, oui.
Priorité santé sur RFI.
Témoignage d'Abdoulaye est recueilli par Tounef Mendy. Le quinquilibre, docteur Moussa Maman Bello, qu'est-ce que c'est exactement?
C'est une plante populaire qu'on utilise souvent pour le palu. C'est comme un antalgique. Quelquefois, c'est comme un anti-inflammatoire. Mais toujours est-il que dans l'idée populaire de la population, c'est que le quinquilibre est une plante qui éloigne à la fois les mauvais sorts quand on le boit. Il éloigne également les mauvaises influences quand on se lave avec. Ah, du coup, vous dites à n'importe quel guérisseur, Dans le cas d'Abdoulaye, on peut utiliser le kankiluba. Ça, ce n'est pas un savoir-faire très
pointu.
Voilà. Cependant, le cas d'Abdoulaye, si le médecin traditionnel voulait chercher vraiment à savoir, ce n'est pas au niveau de Kori. Le Kori ne montre pas exactement quelle est la maladie d'Abdoulaye. Mais cependant, comme Abdoulaye, il a très bien compris que Abdoulaye a un problème, soit affectif ou relationnel, ou il est un peu déprimé, on peut utiliser le kankiluba.
Par exemple, quand il dit qu'il traîne dans son lit, il n'arrive pas à se lever, ouais, c'est quand même un syndrome dépressif.
On peut utiliser le kankiluba. Mais d'autres plantes, il faut aller plus loin, il faut chercher encore plus loin.
Cette connaissance, justement, des produits, des plantes, elle se transmet de génération en génération, ou il y a quand même une littérature, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer? Imaginons, nous, quelqu'un ici qui n'a pas la possibilité de rester longtemps pour cet apprentissage, comment est-ce qu'il peut s'initier à, justement, tout ce savoir particulier?
Bon, c'est comme la médecine moderne, hein. Vous pouvez actuellement, maintenant, la médecine moderne, on peut se permettre de prendre l'aspirine, même sans aller voir son médecin.
Mais aucun guérisseur n'apprend avec un livre de plantes traditionnelles. Je pense que s'il y a d'autres méthodes de formation pour justement acquérir ce savoir.
Oui, c'est, il faut s'approcher de son maître, ou bien de s'approcher de la famille des guérisseurs. Parce qu'il y a des familles des guérisseurs, il y a des maîtres qui sont formés spécialement pour être guérisseur traditionnel, auquel cas, si vous voulez avoir, par exemple, la connaissance du maître, il faut vous approcher de lui. C'est comme l'école de médecine. Si vous n'allez pas à l'école de médecine, vous ne pouvez pas être médecin, ce n'est pas possible. C'est également exactement la même chose. Si vous voulez être médecin traditionnel, il faut soit vous approcher d'un maître, ou alors, si vous êtes de la famille d'un guérisseur traditionnel. Sinon, on ne l'apprend pas comme ça par hasard. Dans un village, on connaît tout le monde, On sait qui est qui. On ne peut pas se hasarder à s'ériger comme un guérisseur traditionnel. Parce que les gens connaissent, ils sont autour de vous, et ils savent qui vous êtes. Donc, dans ce cas, si vous n'avez pas été formé, mais on ne vous prendrait pas comme guérisseur. C'est comme, on va vous dire qu'il a appris sur le tas.
Professeur Olivier Bouchot, vous avez appris sur le tas aujourd'hui. Vous estimez que vous avez un niveau de connaissance abouti, justement, dans ce savoir traditionnel, ou vous êtes encore à l'initiation?
Non, moi je suis un bleu total, je suis un bébé, mais il ne faut pas non plus, surtout moi dans ma position de médecin formé à la faculté, qui enseigne la médecine aux étudiants, et ça je le dis aussi toujours aux étudiants à qui je parle de l'approche ethno-médicale ou transculturelle, ça n'a aucune importance d'avoir des connaissances anthropologiques ou pas. L'important, c'est d'avoir cette sensibilité qui fait penser que les deux approches médicales sont complémentaires et qu'il faut donner des petits signes au patient pour lui dire que primo, on n'a aucun mépris pour l'autre approche médicale, et voire même tendre des perches pour que le patient se sente à l'aise d'y avoir référence. Donc moi, j'ai quelques petites connaissances anthropologiques que j'ai apprises de mon côté en lisant des documents anthropologiques. J'ai une connaissance que m'a transmise Moussa, mais troisième petit clin d'œil que j'ai appris au contact de Moussa, c'est que quand je suis allé avec une partie de mon équipe d'ailleurs dans son village pour assister à des thérapies traditionnelles, notre réflexe spontané était de dire à Moussa pourquoi ceci, pourquoi cela, explique-nous, etc. Et à chaque fois Moussa nous disait arrêtez de poser des questions, observez par vous-même, imprégnez-vous des choses et après peut-être je vous expliquerai. Et je pense que c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'on comprend les choses. Alors, il y a parfois besoin d'un peu d'explication, mais plutôt que de vouloir se gaver d'informations, et puis après, on ne sait plus trop quoi on en fait, il faut s'imprégner des choses et il faut comprendre profondément. Évidemment, ça prend du temps.
Donc, professeur Olivier Bouchot, docteur Moussa Mamambello et docteur Agnès Gianotti, vous restez avec nous. On va se retrouver dans 3 minutes, toujours pour parler des oppositions et des convergences entre médecine traditionnelle et moderne. On se retrouve juste après les informations.
Priorité santé, Caroline Paré.
On se retrouve pour cette seconde partie de Priorité Santé. On continue de parler des médecines traditionnelles qui cohabitent avec la médecine moderne. Rebouteux, marabouts, guérisseurs, des pratiques traditionnelles propres à certaines régions, à certaines cultures, et qui s'exportent, traversent les océans et cohabitent parfois avec les IRM, les coloscopies et les infiltrations de corticoïdes, cohabitation d'expertise, de croyances, de savoir-faire transmis dans les amphithéâtres des facultés ou de génération en génération, comme on vient de le voir. Toujours avec nos trois invités, le professeur Olivier Bouchaud, chef du service des maladies tropicales à l'hôpital d'Avicenne à Bobigny, docteur Agnès Dianotti, médecin généraliste à Paris, auteur de Renaître en pays d'Endi avec le docteur Moussa Mamambello, qui est aussi avec nous, médecin, ethnopsychiatre, tradit, praticien, un livre publié aux éditions Granvaux. Professeur Olivier Bouchaud, les patients qui viennent vous consulter à l'hôpital sont en quête d'expertise, d'une approche assez rationnelle de la santé le plus souvent. Qu'est-ce que vous a apporté justement cette approche traditionnelle? Vous l'avez dit hein, avec modestie, vous n'avez pas encore cette connaissance traditionnelle à proprement parler, mais est-ce que ça vous fait relativiser sur certaines certitudes de la science et de la médecine?
Alors évidemment oui, mais je dois dire que j'espère que je n'avais pas forcément besoin de cette dimension d'apprentissage et de connaissances traditionnelles pour avoir besoin de relativiser, parce que le quotidien nous amène à une certaine humilité, sauf quand on a la grosse tête, mais tant pis. Si je peux me permettre, je voudrais revenir sur une question qu'on a abordée tout à l'heure, enfin que vous avez abordée tout à l'heure, de la transmission du savoir. Parce que je crois que c'est quelque chose de très très important, particulièrement en Afrique, où il y a une tradition orale qui se transmet donc de génération en génération, avec un apprentissage qui est très long. Malheureusement, cette transmission, elle est en train de s'effilocher. Le savoir traditionnel, par exemple, en Chine, a la chance, parce que ce sont des cultures différentes, d'avoir une tradition qui est également écrite et qui permet d'avoir une espèce de base. Et c'est pour ça que le livre que Agnès Ganotti et Maman Moussa ont écrit est très important, parce que c'est un de ces rares documents qui vont permettre de fixer un petit peu cette tradition et de garder des traces qui malheureusement risque de disparaître, comme on le voit trop souvent.
Alors justement, on va faire référence à ce livre, docteur Moussa Mamambello, docteur Agnès Dianotti, ouvrage que vous avez co-signé. Vraiment, le terme de document correspond tout à fait. Observation, description intégrée, on est embarqué dans ce qui se passe. Un peu plus d'une semaine dans la vie d'une jeune femme, sa prise en charge, on va le voir. Pas seulement par un praticien tout seul, hein, mais bien par toute la communauté. Elle est là pour se libérer du fardeau de son mal-être. Elle s'appelle Adjou, c'est bien ça, Adjou. Nous sommes dans le Nord Bénin. Docteur Moussa Mamambello, de quoi souffre-t-elle?
Vous me posez une question délicate, parce que dire de quoi elle souffre, c'est un peu difficile, parce que je suis dans l'entre-deux. C'est très difficile, quand on est dans l'entre-deux, de dire de quoi cette patiente souffre.
Comment est-ce qu'elle exprime sa souffrance?
Mais elle l'exprime dans un discours qui elle pense que le thérapeute doit comprendre. Elle dit, je me vois comme un homme. Quand j'étais petite, quand je grandissais, je me voyais comme un homme. Je peux comprendre que moi, de mon côté, avec l'aspect culturel que j'ai appris en Occident, je peux dire qu'elle est en double. Alors que si je la vois dans le côté culturel africain, je la comprends comme elle est possédée par un homme. Nous, c'est comme ça qu'on exprime. Donc on peut dire qu'elle est possédée par un homme, et il faut arriver à faire de sorte que cet aspect d'être à la fois une fille, d'être à la fois un garçon, il faut qu'on arrive à faire que ce côté garçon puisse être entièrement accepté par la patiente tout en étant une femme. C'est ça comment nous pouvons interpréter. On peut dire qu'elle est possédée, qu'elle a eu une possession par un esprit homme. Et si on ne le dit pas en français, on ne peut pas le dire comme ça. Parce que si elle dit que je suis possédée par un esprit homme, on va lui dire mais elle est folle, elle est complètement folle. Mais nous, on le garde, on sait que ce n'est peut-être pas un homme, ça peut être un esprit. C'est à nous de lui définir ce que c'est qu'un esprit. On l'explique, elle comprend et elle adhère au principe. Et ainsi, on fait ce que je dis, un adorcisme, qu'elle accepte cet aspect homme qui est en elle, tout en étant une femme.
Le soin, la prise en charge s'appelle Couvade, c'est d'ailleurs le sous-titre du livre, Couvade et possession. Que recouvre exactement ce terme de couvade, docteur Agnès Gianotti, parce qu'en France, le sens est complètement différent.
Hein. Oui, on n'est pas au poulailler, mais c'est une renaissance.
Au sens médical aussi, quand on parle des hommes qui simulent une grossesse pendant que leur femme est enceinte, mais là, ça n'a rien à voir. C'est une renaissance.
C'est une renaissance, c'est-à-dire que la patiente se trouve cloîtrée dans une chambre avec toute l'équipe de guérisseurs, parce qu'il y a du monde. Hein. Souvent, on fait le parallèle avec la psychanalyse, où on va voir un psychanalyste pendant des années, une ou deux fois par semaine.
Là, c'est un condensé.
Et voilà. Là, en nombre d'heures de travail, je dirais que c'est l'équivalent, sauf que c'est sur une semaine. Donc, elle est enfermée dans cette case, comme dans un utérus maternel, et elle renaît avec une identité restaurée et un équilibre avec le monde environnant. C'est un peu ça.
Alors, un rituel thérapeutique très complexe, hein. Quand on lit, on a l'impression d'entendre qu'il y a du bruit, hein, ça bouge, il y en a dans tous les sens, musical, animal, des potions, des incantations, des transes, docteur Moussa Mamambello. Quand on n'est pas initié, quand on n'est pas habitué, tout ça, ça peut même sembler, moi j'utiliserais le mot, violent. Il y a des moments, c'est très violent, c'est brutal, on a l'impression quand même que cette femme, elle est venue exprimer une souffrance, mais qu'elle en bave hein, pour s'en sortir, parce que c'est pas facile ce qu'elle vit justement pour se sentir mieux.
Oui, c'est pas facile, c'est difficile, c'est vrai. C'est vrai parce que dès qu'on a un trouble, ce trouble-là, on le considère comme violent parce que il bouleverse complètement le corps. Et cette violence, on la sent à travers le discours du malade qui dit « je n'arrive pas à dormir, je fais des rêves bizarres ». On comprend que dans son corps, il y a quelque chose de violent qui le perturbe. Mais pour nous, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Parce que la médecine traditionnelle africaine, telle que moi je la connais, telle qu'on me l'a appris, ce que je connais de ma famille, de ma culture, on sait que l'être est dans un tout. Il n'est pas un élément isolé. On sait que l'être est aussi à la fois du cosmos. Il est de la terre. Il est de l'eau. Il est de tout. Et dès l'instant que l'harmonie qui est à l'intérieur pour être un homme, une personne, c'est un élément qui vient le perturber, on trouve que cet élément-là est violent. Donc cette violence, on va la calmer tout en faisant la couvade, en mettant la personne en transe. Et en même temps, il y a une période de transe et une période de calme. C'est ce qu'elle a expliqué, docteur Gianotti. C'est qu'on met la personne en couvade et on cherche à comprendre d'où vient le trouble. Et le trouble, on sait que ça vient de son arbre généalogique. Et on va chercher dans les profondeurs. On a toute une technique, tout un jeu qu'on fait pour pouvoir entrer dans le trouble généalogique de la femme. Et ça ne s'apprend pas en un seul jour. Il faut être de la culture pour comprendre comment on rentre dans le jeu, et en rentrant dans le jeu et dans la thérapie, la personne a déjà compris parce que de l'autre côté, sa famille lui dit ça, si on te fait ça, donc c'est ça. Si on te fait ça, donc c'est ça. Si on te fait ci, c'est ci. C'est-à-dire que, en dehors de nous-mêmes, les thérapeutes, il y a également la participation de la famille. La participation de l'entourage de la personne, qui l'oriente également dans cette thérapie-là. Donc c'est difficile, c'est vrai, c'est difficile, parce que ça coûte cher. Qu'est-ce que j'appelle ça coûte cher? Ça coûte cher du côté des parents, à l'époque, parce que maintenant ce n'est plus ça, c'est le malade qui s'en prend en charge, alors qu'à l'époque c'est toute une famille qui se regroupe et tout le village se regroupe pour accompagner le malade.
Une approche véritablement communautaire, docteur Agnès Gianotti, vous vouliez réagir?
Oui, parce qu'on voit souvent plus facilement la violence chez les autres que la nôtre. Or, je trouve la médecine dite moderne extrêmement violente et invasive. Dans les cérémonies telles que j'y ai assisté, la violence est contenue et le patient il est entouré. Et si vous regardez les photos du livre, vous verrez avec quelle humanité et quelle affection les guérisseurs prennent soin du patient qui est jamais seul. Et donc, ça, j'ai jamais vu rien déraper chez eux, alors que je peux pas dire la même chose de la médecine moderne. C'est une violence qui s'exprime parce que la souffrance morale, la maladie mentale, c'est extrêmement violent. Donc, c'est cette réalité-là qui est violente. Et comment l'améliorer? La neutralité bienveillante, j'ai appris ça justement au village en Afrique, est pas forcément opérante. Donc, comment faire que ces patients aillent mieux? Oui, des fois, il faut que la violence s'exprime. Et ils ont cet art ancestral d'arriver à contenir la violence dans l'humanité.
Ce n'est pas une camisole. Chacun sa façon de contenir des manifestations violentes. Professeur Olivier Bouchaud, vous avez été témoin, vous avez assisté à ce genre de rituel. Comment on regarde justement avec ce, on peut le dire, cet œil extérieur? On passe par différentes phases. Est-ce qu'on passe par une forme d'étonnement, de sidération, où on est toujours dans la curiosité et dans on prend tout ce qu'on voit?
Alors c'est effectivement pour moi et pour l'équipe qui m'avait accompagné, ça reste, qu'on en parle régulièrement, un moment extrêmement fort. C'est absolument captivant parce que c'est des choses qu'on ne voit autrement jamais. C'est tellement loin de notre façon de faire qu'on est dans une découverte absolue. Et c'est là où on sent qu'on rentre dans un monde qui à la fois nous est totalement étranger, mais au fond de nous, on sent, parce que l'homme est universel, au fond de nous, on sent qu'il y a quand même des choses qui vibrent en nous et qui sont tout à fait communes. Alors il y a un côté très fascinant, il y a un côté effectivement très violent qui est parfois très interloquant, mais après cette perception d'une forme de violence, on ressent ce que vient de dire Agnès, que tout est contrôlé. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Agnès, sur le fait que dans notre façon de pratiquer à nous, il y a une énorme violence, parce qu'en fait, après la consultation, dans la mesure où on essaie au maximum d'entourer le patient, après la consultation, il se retrouve tout seul sur le trottoir, avec un diagnostic qui vient de lui tomber sur les épaules, avec éventuellement des soins qu'on lui aura donnés et qui sont pas toujours très faciles à supporter, mais va se retrouver tout seul sur le trottoir, un peu désemparé. Alors que là, le patient, il ne sera lâché que quand tout a été réglé, ou en tout cas en grande partie réglé, qu'on est en régime de croisière. Et après cette première, ce premier ressenti qui peut paraître un petit peu difficile à vivre, on comprend que tout est contrôlé et que tout est mesuré. Alors peut-être que je me trompe et peut-être que Moussa Maman va me dire non, on contrôle pas tout, mais en tout cas c'est le sentiment qu'on a.
En tout cas, en lire le livre, il y a vraiment des choses qui arrivent les unes après les autres. C'est extrêmement pensé, extrêmement organisé. Docteur Moussa Maman Bello, vous êtes donc tradipraticien, également ethnopsychiatre. On voit de plus en plus justement émerger cette vision anthropologique de la médecine, connaître le cadre de vie, la culture, l'environnement, et ce y compris lorsqu'il y a des flambées de maladies. On se souvient d'Ebola par exemple en Guinée, en Afrique de l'Ouest, au Libéria. Médecins conventionnels ne peuvent pas calquer tout leur savoir quand ils arrivent dans un autre terrain, et c'est là justement qu'il y a cette convergence entre médecins traditionnels, entre la culture de terrain et ce que peut apporter, dans certains cas, la médecine occidentale ou conventionnelle.
Oui, c'est exact. Et vous m'excusez, hein, je vais dire que je demanderai pardon à ceux qui nous écoutent. Je me rappelle, la médecine traditionnelle est venue dans les hôpitaux parisiens suite aux difficultés que rencontraient les médecins dits modernes dans les hôpitaux parisiens. Parce que ça fait 12 ans que j'ai fait venir les guérisseurs traditionnels dans les hôpitaux suite à l'incompréhension du discours des malades atteints de VIH dans les hôpitaux parisiens. C'est effectivement là que la médecine moderne a eu sa place dans les hôpitaux, puisque Les médecins, ils comprennent pas, ils savent pas ce qui se passe. Le malade africain, il dit oui, oui, j'ai compris, alors qu'il n'a pas compris. Ou alors, il a refusé de comprendre. Si on lui annonce comme ça, directement qu'il est atteint de VIH, il est perturbé, il est perdu. Alors, tout ce qui est traditionnel dans sa culture remonte. L'histoire de comment on va tomber malade, pourquoi j'ai attrapé le VIH, pourquoi il est venu vers moi, pourquoi il n'est pas passé par ailleurs. Le discours médical qui dit probablement soit le malade a pris par il a pris la médecine la maladie par une piqûre, ou bien il a fait un rapport sexuel qui est un peu tabou. Quelquefois qu'on dise à quelqu'un que s'il est atteint de la maladie, c'est parce qu'il a attrapé une femme qui est ou un homme qui a le VIH. Ça, les gens ne peuvent pas comprendre ça d'emblée. Et c'est là que la médecine moderne a commencé à accepter les guérisseurs pour expliquer comment ils prennent en charge un malade atteint de VIH. C'est par là que la médecine traditionnelle a pu pénétrer dans les hôpitaux à Paris.
Professeur Olivier Bouchot, cette prise en charge particulière pour le VIH, vous l'évoquiez tout à l'heure en première partie d'émission, c'est pour oraliser la maladie ou c'est aussi pour un traitement, y compris avec, comme on a vu tout à l'heure, des produits traditionnels?
Je dirais que c'est plutôt pour aborder la question qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est la représentation de la maladie. Et alors, on parle beaucoup du VIH, et c'est vrai parce que le VIH est une maladie extrêmement lourde dans sa représentation, plus que beaucoup d'autres, pour un tas de raisons qu'on n'a pas le temps d'aborder ici. Mais je pense que la plupart de vos auditeurs le savent. Et ce pourquoi j'ai attrapé le VIH est tellement, tellement, tellement lourd à porter. Et nous, en tant que médecins conventionnels, on ne pourra pas apporter ce pourquoi. Et c'est pour ça que une autre approche va permettre d'apporter une explication à ce pourquoi et donc de donner du sens à la maladie. Et les grosses difficultés qu'on a avec certains patients, qu'ils soient africains ou pas d'ailleurs, avec des patients qui ne prennent pas leur traitement ou qui ne viennent pas régulièrement aux consultations et donc qui menacent leur vie, même souvent, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à accepter leur maladie parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre le pourquoi. Et c'est pour ça que cette approche est très intéressante dans ces cas-là. C'est que en allant petit à petit dans le sens de leur maladie, une fois que le sens est compris, la maladie est acceptée et ensuite on peut marcher en parallèle, si je puis dire, avec les deux médecines pour le plus grand bénéfice du patient. Et ne pas vouloir s'attaquer à la question du pourquoi, à la question du sens de la maladie, dans un certain nombre de cas, c'est aller au-devant de l'échec.
L'échec, par exemple, même de l'observance. Docteur Moussa Mamambello, vous parlez avec ces malades, il y a en même temps, par exemple, des prescriptions, puisqu'on parlait du VIH, par exemple, de multithérapie ou de trithérapie, approche thérapeutique multiple. Vous avez justement ce double parcours. Est-ce qu'il vous arrive, quand vous êtes en consultation, puisque vous êtes aussi généraliste, à la fois de faire une prescription où apparaissent des produits chimiques, des cachets, et puis des plantes?
Non. J'ai toujours prôné aux malades d'écouter leur médecin, d'expliquer à leur médecin, de ne pas laisser tomber la prise en charge des médecins. J'ai toujours dit aux malades, parce que dans la thérapie traditionnelle, on dit, celui qui a découvert ta maladie, c'est à lui qu'il faut faire confiance. Le médecin moderne, ou le médecin conventionnel, c'est la médecine conventionnelle qui a découvert le sida. Donc j'ai dit aux patients, le médecin moderne qui vous suit, qui vous soigne, c'est à lui qu'il faut faire confiance. Certes, il a besoin de savoir. Il a besoin de comment on peut dire le sida, c'est quoi le sida en termes traditionnels. Il en a besoin. Cependant, celui qui a découvert la maladie, c'est à celui-là qu'il faut faire confiance. Même chez nous, celui qui vous a dit, vous avez telle chose, alors c'est celui qui connaît pourquoi cette chose-là. Il faut lui faire confiance. Cependant, On demande aux malades également, s'ils veulent la médecine traditionnelle, il ne faut pas qu'ils oublient la médecine moderne. Donc le suivi thérapeutique doit être continué. Il ne faut jamais laisser tomber ces médicaments. Ça, c'est la première des choses. C'est la médecine traditionnelle qui dit, donc je le répète, celui qui a trouvé le médicament et qui a dit qu'il a découvert la maladie, c'est à celui-là qu'il faut faire confiance.
Ça veut dire qu'on va voir un guérisseur, ce guérisseur vous dit arrêtez votre traitement, il ne faut pas l'écouter, il faut partir?
Normalement, non. Le guérisseur, même son collègue traditionnel, il ne peut pas lui dire de laisser tomber son traitement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le premier qui a découvert la maladie que le malade est parti voir, c'est celui-là à qui il faut faire confiance. Donc il ne faut pas dire que le guérisseur traditionnel soigne et donc je vais laisser tomber. Non, non, non. Continuez à prendre les médicaments des médecins, quelle que soit la maladie. C'est comme ça qu'on a toujours dit aux patients.
Merci beaucoup, cet échange touche à sa fin. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Professeur Olivier Bouchot, chef du service des maladies tropicales à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Merci à vous, docteur Agnès Gianotti, médecin généraliste, secrétaire général de l'URACA, unité de réflexion et d'action des communautés africaines. URACA que vous avez fondé, docteur Moussa Mamambello. Vous avez signé tous les deux cet ouvrage dont nous avons parlé pendant cette émission. Nous y avons fait référence, Renaître en pays d'Endi, Couva des possessions au Nord Bénin, publié aux éditions Grand Vaux. Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète. Aujourd'hui, on va distinguer nitrate et nitrite avec des questions justement sur la présence de ces additifs alimentaires dans notre alimentation. Et est-ce bien pour notre santé? Alors pour commencer, on va décrire, justement, distinguer les deux, nitrate, nitrite. Pourquoi est-ce qu'on les utilise?
Alors déjà, il faut rappeler que les nitrates et nitrites sont des additifs alimentaires, c'est-à-dire des substances qui vont être ajoutées aux aliments pour en préserver l'innocuité, le goût, mais aussi l'aspect. L'industrie aujourd'hui utilise beaucoup, beaucoup de choses pour l'aspect des aliments. Et ils vont être utilisés principalement pour conserver les aliments, notamment les aliments venant de la viande et de la volaille. Car dans ces deux types d'aliments, on peut retrouver des spores d'une bactérie qu'on appelle Clostridium botulinum, qui peuvent sécréter une toxine qui est très connue d'un peu tout le monde, qui est la toxine botulique. Et donc, si jamais on ne fait rien pour conserver, on peut avoir le botulisme qui se développe, qui est une maladie qui peut devenir mortelle. Donc, les industriels vont utiliser les nitrates et les nitrites qui vont être capables de bloquer la croissance de cette bactérie et par conséquent, je rends, j'allais dire, le produit plus sûr à utiliser pour la santé.
Alors, dans quels aliments est-ce qu'on les retrouve et pourquoi les nitrates et les nitrites font de plus en plus peur aux consommateurs?
Alors, il y a tout d'abord ceux qu'on va dire naturels, qu'on va retrouver dans les laitues, la betterave ou le céleri. Et il y a ensuite ceux qui posent aujourd'hui beaucoup de questions, qui sont ceux qui sont utilisés par l'industrie agroalimentaire, que l'on va retrouver principalement dans les charcuteries, comme le bacon, les saucisses, saucissons, encore le jambon, et qu'on va retrouver aussi dans certains plats cuisinés et dans les fromages fondus. Alors, le risque de ces composés, c'est que quand ils réagissent, on ne va pas rentrer dans le détail de la réaction, quand ils sont mis par les industriels, ils se transforment en nitrosamines. Et c'est ces composés-là aujourd'hui, donc il y a une grosse interrogation et des suspicions de leur capacité cancérigène. Donc c'est là où il peut y avoir un problème pour la santé de manière plus globale. Alors les nitrates et nitrites naturels posent moins de problèmes parce qu'en fait, comme ils viennent de légumes, ils contiennent aussi des antioxydants et les deux vont réagir ensemble pour bloquer la réaction et éviter qu'il y ait des nitrosamines.
Est-ce que ça veut dire que quand on mange de la viande ou de la charcuterie, eh bien on peut courir un risque pour sa santé?
Alors l'année dernière, il y a eu un peu d'affolement parce que l'OMS sur ce sujet-là avait fait un communiqué de presse un peu maladroit qui avait affolé tout le monde, qui était un peu manger de la charcuterie et avec le cancer, donc il y avait un grand affolement. Alors il faut rappeler, revenir sur ce qui s'est un peu passé, les discussions qu'il y a eu après ça, que manger de la viande de manière modérée reste dans les recommandations de toute façon, puisque c'est une catégorie d'aliments qui a son importance, qui amène des protéines de très bonne qualité, qui amène aussi du fer qui est biodisponible et aussi du zinc. Donc l'Organisation mondiale de la santé a rappelé que c'est la consommation de viande et surtout de charcuterie en excès qui peut avoir un rôle, notamment sur le cancer du côlon. Donc, ce qu'il faut bien rappeler à nos auditeurs, c'est que c'est pas en mangeant deux tranches de jambon, par exemple, par semaine, qu'ils courent un risque. Par contre, il faut faire attention et pas en manger en excès, parce que là, c'est sur l'excès où il peut y avoir un risque pour la santé.
Alors, pour conclure, des petites recommandations à nous donner concernant justement ces aliments particuliers.
Alors, sauf pour les personnes qui veulent ne pas manger de viande pour des raisons de croyance ou des raisons parce qu'ils en ont besoin. Autrement, il ne faut pas recommander d'arrêter la viande, mais il faut en manger modérément. Alors, modérément, ça veut dire quoi? Souvent la question, on va dire 3 à 4 fois par semaine maximum, avec une consommation maximum sur la semaine de 250 à 300 grammes de viande, ce qui est relativement peu par rapport à la consommation qu'on en fait en France, et de remplacer le reste de la viande consommée plutôt par du poisson. La quantité est basse, une quantité de charcuterie maximum de 25 grammes par jour. Et après, pour revenir à la question des nitrates et des nitrites, essayer d'acheter des produits, ça commence à arriver sur le marché de plus en plus sans nitrates et nitrites, ou alors de travailler en lien plus direct, enfin d'acheter avec des producteurs qui travaillent ça de manière plus traditionnelle, sans additifs.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète. Notre émission se termine. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et fabrique Priorité Santé. À Cétou Samaké, Ophélie Lassène et Didier Bleu. Et notre numéro de téléphone, si vous voulez témoigner ou poser vos questions, c'est bien sûr le 33 84 22 75 75. Pour réécouter Priorité Santé, rfi.fr, rubrique émission. À demain.
C'était Priorité Santé, avec Suno Assurance qui vous recommande d'avoir une épargne sécurisée pour assurer vos projets en toutes circonstances. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.